Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la cartographie et ce matin, la cartographie de l'Algérie coloniale. Dans un premier temps, dans cette émission, Victor Massé de l'Épinay va nous conduire dans l'exposition Made in Algeria, généalogie d'un territoire qui dure jusqu'au 2 mai au MUCEM à Marseille. Et puis, l'historienne Hélène Blé, professeure à l'École normale supérieure, qui a participé au catalogue de cette exposition et a écrit Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale chez Fayard, nous expliquera comment, pratiquement, les cartographes français ont pu progressivement dessiner justement la carte de cette Algérie coloniale. Mais tout de suite, et jusqu'à 9h35, promenade au MUCEM avec Victor Massé de l'Épinay, Zahia Rahmani qui est co-commissaire de l'exposition avec Jean-Yves Sarrazin et Didier Guignard, chercheur à l'IREMAM à Aix-Marseille, auteur de L'abus de pouvoir dans l'Algérie coloniale entre 1880 et 1914.
Alors, c'est une exposition qui est dédiée à la manière dont s'est effectuée sur plusieurs décennies la délimitation cartographique de ce territoire. La manière dont on l'a utilisée, c'est avant tout aussi comme un objet scientifique, objectif soi-disant, mais surtout aussi comme un objet d'art visuel. Donc les cartes, pour partie, c'est un tiers de l'exposition. Tout cela est accompagné d'œuvres, peintures, œuvres vidéo et aussi un certain nombre de photographies et d'affiches. Mais on a utilisé la carte pour montrer à la fois comment en amont de la conquête, il y a une représentation très picturale du territoire, un peu comme des aquarelles et des peintures, et puis comment petit à petit le tracé, la captation façonne une entité qu'on va appeler l'Algérie.
Vous avez dit que les cartes étaient utilisées pour leur aspect artistique. La première chose qu'on voit en entrant, c'est une carte assez grande qui fait environ 1m30, très colorée. Est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ?
Alors, c'est un portulan du XVIIe, qui est fait sur donc 6 pots et qui tend à représenter la Méditerranée et qui a pour ambition d'illustrer quelque chose qui est important pour nous, c'est à quel moment, petit à petit, la zone sud de la Méditerranée s'appelle plus Maurétanie ou Numidie, mais Barbarie. On voit bien que l'important, c'est quand même pas dans cette carte la précision cartographique, mais c'est vraiment, vraiment très subjectif et c'est de l'illustration, en fait, hein. Avec schématisation des villes, schématisation des emblèmes, des récits bibliques qui apparaissent du côté de la Syrie, on schématise un peu aussi l'Asie, voilà.
Et alors, en bas de ce portulan, il y a des petits encadrés avec les grandes villes d'Afrique du Nord, Alexandrie, Tripoli, Tunis et Alger.
Alger est la plus grande ville. C'est un des premiers grands ports avant d'arriver vers les grands ports de Méditerranée. Donc oui, c'est une ville qui a une importance de toute façon pour le commerce et puis parce qu'elle est aussi, pour l'Empire ottoman en tous les cas, un des derniers lieux de la rive sud de la Méditerranée.
Donc dans cette première partie, il y a des cartes d'Anville, il y a des cartes de Sanson, tous ces cartographes de cabinet, comme on disait autrefois, qui travaillaient essentiellement à partir de récits de voyage. Il y a aussi, là, on est devant une carte qui s'appelle Reconnaissance générale d'Alger, faite en 1808 par le colonel du génie Boutin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Zahia Rahmani ?
Oui, alors cette pièce en fait de Vincent-Yves Boutin, elle est significative de l'intérêt qu'a d'ores et déjà l'armée, la France, pour ce pays, puisqu'on voit bien que Boutin, en plus de montrer les défenses de la ville, montre comment sont construites les murailles, donne déjà un certain nombre d'éléments. Il a été envoyé là par Napoléon, il a été un espion, il a écrit à ce sujet, et lui-même a considéré que s'il fallait donc envahir cette régence, il fallait le faire par ces différents, ce qui est apparu déjà dans les travaux de Thomas Chaud, mais on voit très très bien que toute cette légende du coup d'éventail s'effondre à partir du moment où ces documents, qui sont quasiment des documents militaires, montrent un fort intérêt pour les défenses et la manière dont une armée pourrait prendre cette régence.
Le coup d'éventail, qu'est-ce que c'est en deux mots ?
C'est l'histoire de l'affront qui est fait à la France suite au fait que l'Algérie réclame son dû et que finalement le dé d'Alger va sur la figure de l'ambassadeur de France donner un coup d'éventail. Celui-ci ensuite sera mis sur un canon et cela sera une provocation pour la France et ce qui justifierait en fait le débarquement. La réalité elle est tout autre, il suffit de lire les écrits de Bourmont qui était le ministre de la marine en fait de Charles X, hein, pour voir que pour préparer une telle armada, 60 000 marins quasiment, hein, 30 000 soldats et marins. Il a fallu d'abord la penser quelques années à l'avance, et puis surtout, il faut un temps de préparation. Et de toute façon, on lit dans les écrits systématiquement qu'il faut une nouvelle aventure militaire à la jeunesse française contre le parti révolutionnaire. Donc on sent bien qu'il y a un enjeu de politique intérieure qui justifie la nécessité de construire ce type d'aventure militaire.
Alors, Didier Guignard, vous êtes historien, chargé de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'études des mondes arabes et musulmans. Vous avez choisi de nous présenter quelques cartes en particulier. Et la première que vous avez choisie, c'est celle-ci sur l'expédition d'Alger, qui date de 1830, la toute première carte presque faite par les militaires français.
La première carte de terrain, en tout cas. Et bon, c'est une compilation en fait, de trois documents. L'auteur est anonyme pour deux d'entre eux. Il est nommé pour le troisième, puisqu'il s'agit d'un extrait de la carte d'un officier de marine, Boutin, en 1808. Donc en fait, elle est antérieure au débarquement de 1830, mais elle a été directement utilisée pour ce débarquement, puisque en 1808, cet officier de marine avait été envoyé en Algérie, et précisément pour faire une reconnaissance de la côte, et éventuellement dans la perspective d'un futur débarquement. Et donc ce relevé du relief littoral était considéré comme une priorité. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que les plans qui accompagnent, qui ont été faits ensuite par plutôt des officiers du génie, une fois avoir posé le pied sur le sol.
À Sidi Ferrouche.
À Sidi Ferrouche, exactement, et avec l'itinéraire jusqu'à Alger, en prenant à revers l'artillerie de la place forte d'Alger, eh bien, c'est déjà un petit peu les différentes méthodes employées pour fabriquer de la carte en Algérie. On a un tracé d'itinéraire. L'officier qui réalise ce tracé n'a pas forcément le temps de beaucoup s'aventurer à droite ou à gauche du trait. Il prend un maximum de renseignements. Ici, c'est un officier du génie, donc ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'aménagement routier qu'il est en train de superviser. C'est les différents emplacements des fortins, des pièces d'artillerie, etc. Donc c'est un renseignement qui est réalisé dans l'urgence. Et avec surtout la révélation d'un savoir extrêmement limité, c'est-à-dire que tout le savoir livresque que l'on mobilise à cette époque-là, qui peut même remonter jusqu'à l'Antiquité, est de peu d'utilité en réalité.
Donc là, on voit vraiment que sans conquête, il n'y a pas de carte, mais que sans carte, il n'y a pas de conquête. On fait tout de suite des cartes.
Là, on fait tout de suite une carte de la presqu'île. On fait tout de suite une carte aussi de la ligne de défense. Et évidemment, les troupes avancent. Hein. Elles avancent vers Alger. Donc vous voyez dans cet ensemble qui est exposé ici, à la fois cette carte, et vous avez dans le même temps deux choses qui sont très importantes dans cette exposition. C'est le tableau de Gudin qui montre en fait la prise d'Alger par terre et par mer, face donc à cette ville, et présentée ici la maquette de la ville d'Alger telle qu'elle a été relevée par le génie en 1830. Un des aspects de la conquête de l'Algérie, c'est aussi la manière dont ce territoire a été représenté. Et Louis-Philippe est quelqu'un qui n'a eu de cesse, en raison aussi peut-être de la présence de ses fils sur le territoire, de commander des œuvres qui avaient pour vocation d'illustrer la conquête. Et là, vous avez un exemple parfait. Ce sont ces magnifiques tableaux qui ont été prêtés par le château de Versailles et qui montrent quand même une chose qui est essentielle à comprendre, c'est que les représentations de ce territoire donnent à voir des territoires immenses, illimités, dans lesquels on ne voit aucun habitant. Ici, vous avez le tableau qui est dédié à la baie d'Oran, avec en miniature la prise de la ville de Mascara, qu'on voit à peine sur ce tableau. Pareil pour ce qui est censé illustrer la bataille d'Isly, ou plus encore, le tableau qui est dédié donc à la marche Alger-Constantine, à nouveau peinture de Siméon Fort, et là, c'est très spectaculaire. C'est un chemin qu'il vous faut prendre sur plusieurs heures de voiture aujourd'hui, et vous avez un panorama époustouflant, gigantesque. Et il apparaît qu'il n'y a quasiment là représenté qu'une sorte de désert de roche.
Donc ce deuxième document est intéressant, c'est une carte de 1837 du colonel Lemercier. Au 100 000e, ce n'est pas un seul auteur qui a réalisé toute cette carte, c'est plutôt une compilation de différents travaux. À chaque fois, des itinéraires donc empruntés par les colonnes militaires, 1834-1837, c'est-à-dire une période où on oscille entre des phases de paix armée et des phases d'affrontement avec les Algériens. un territoire qui n'est pas du tout maîtrisé par l'armée française en dehors de quelques points côtiers. Et donc des observations qui sont un petit peu plus approfondies par rapport à la carte précédente, c'est-à-dire qu'on commence à mobiliser le savoir vernaculaire des Algériens, avec des toponymes arabes en l'occurrence ici. Et puis un œil qui commence à s'exercer en essayant de repérer des points de repère assez inhabituels pour les cartographes. Notamment, il est fait mention à plusieurs endroits de marabouts, ces tombeaux de saints. On cherchait des éléments de substitution à ce que l'on connaissait en France, c'est-à-dire des églises, c'est-à-dire des châteaux. On n'a rien de tout cela en Algérie. Et donc le marabout va être en quelque sorte le repère de substitution bienvenu pour les géodésiens.
Quand on est devant une carte comme ça, on a tendance à penser que le blanc, c'est du désert. Désert humain, désert d'activité. Or, en fait, les blancs des cartes des colonies et de l'Algérie ne signifient pas qu'on a affaire à du désert.
Non, du tout. C'est d'abord le désert de l'ignorance à ce moment-là. Et un désert à compléter, un vide à remplir.
Alors, la carte, tout dépend de quelle carte nous parlons. Soit c'est une carte d'état-major, un document très privé, comme cette petite carte qui est ici, face au grand tableau de Simon Fort, dans lequel est inscrit « terrain mis à la disposition des Européens et terrain à mettre en réserve pour les indigènes ». Ce type de cartes, ce ne sont pas des cartes qui sont diffusées vers le grand public. Un grand nombre de cartes présentes ici sont des cartes qui, tout simplement, sont des cartes qui servent aux militaires. Mais dans le même temps, cela doit s'accompagner d'une certaine propagande afin de faire qu'une colonisation puisse s'y perpétuer, ne serait-ce que pour pouvoir inverser un rapport démographique. Parce qu'évidemment, existent des habitants dans ce territoire. Et pour ce faire, on va mettre en place une manière d'envisager ces territoires comme étant susceptibles, finalement, d'être des zones de relégation. Ce qui va se passer au moment, par exemple, des révoltes de 48, la révolution de 48 va donner lieu aussi à une volonté de faire qu'un certain nombre d'indigents parisiens puissent devenir des propriétaires terriens en Algérie. Et quelques convois, comme ça, de milliers de personnes partiront. C'est le cas de l'affiche que vous voyez là, et qui est un appel aux ouvriers de Paris pour aller coloniser le territoire algérien.
Alors ce tableau d'Horace Vernet, comme ces cartes de la salle dans laquelle nous nous trouvons, font partie de la troisième partie de l'exposition, Capter l'Algérie. En gros, une fois que la conquête militaire proprement dite a été faite, il s'agit de faire connaître, de faire de la propagande pour la colonisation de l'Algérie.
Alors, on ne peut pas dire que la conquête soit terminée. Hein. Par exemple, là, vous avez un tableau qui illustre la reddition des tribus kabyles. Et c'est un tableau qui a été donc donné par l'empereur, 1862. Mais en fait, même jusqu'au sud, hein, les difficultés vont perdurer. Il y a toujours eu révolte et volonté des Algériens de ne pas se satisfaire de la situation dans laquelle ils étaient assignés. En tous les cas, ce qu'il faut dire quand on vient à penser la manière dont ça s'effectue, c'est que tous les apports vont opérer. Et donc là, c'est par exemple la manière dont les sciences vont jouer leur rôle, à la fois bien sûr d'information sur le territoire, que ça soit la botanique, la zoologie, la géologie et autres, et dans le même temps, par exemple, si on voit la manière dont ont été pensées, conçues les tribus, les caïdas à l'intérieur du territoire, il y a une volonté aussi d'ethniciser la société algérienne. Elle va être profondément ethnicisée par la cartographie.
Donc la carte des tribus bien connu de 1846. C'est la carte d'un officier du génie et d'un chirurgien militaire, Ernest Carrette et Auguste Varnier. Si elle est aussi connue, c'est que c'est la première carte systématique remplissant entièrement un espace de toponymes de tribus. Et c'est une carte aussi qui est intéressante parce qu'elle offre une vision saint-simonienne de la conquête de l'Algérie. La prise de position dans un débat franco-français. C'est une carte qui est réalisée en pleine guerre de conquête. La guerre a repris en 1840 contre Abdelkader. Et on a considéré, côté français, qu'il fallait qu'on connaisse un petit peu mieux à qui on avait affaire. Et c'est dans ce mouvement-là qu'a été lancée la commission d'exploration scientifique de l'Algérie, 1839-1842, composée à peu près à parts égales de savants saint-simoniens ou de savants militaires qui avaient une vision beaucoup plus radicale des choses, c'est-à-dire vouloir recréer les conditions d'une colonisation prenant l'héritage de la Rome antique en ignorant complètement les barbares qui s'opposaient sur le chemin, en quelque sorte. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que Varnier et Carrette sont deux saint-simoniens qui, eux, au contraire, considèrent que pour dominer, il faut associer, il faut obtenir un minimum d'adhésion des populations et donc mieux les connaître, mieux s'intéresser à celles-ci. Et donc il réalise cette carte qui permet certes de mettre en boîte des populations qui sont beaucoup plus enchevêtrées dans la réalité, qui sont mouvantes. Il s'y emploie malgré tout. Il y a vraiment cet effort qui est fait d'apporter de la complexité, mais sous forme de catégories simplifiées qui visaient à tenir compte, certes, un minimum des usages locaux, mais en les rendant assimilables à des réalités, à des catégories foncières métropolitaines. Ici, les terres de parcours de telle ou telle tribu, c'est quelque chose d'assimilable aux biens communaux en France, par exemple. Et donc, on prépare déjà un petit peu l'organisation à la fois administrative et foncière dans l'esprit de la grande réforme du Second Empire.
Alors, toujours dans la question scientifique, ici vous avez la carte des ordres religieux musulmans de 1884. En fait, elle ne date pas de 84. Hein. C'est une tentative de refaire la carte de Rhin de 1884 qui a été faite autour des années 1930. Hein. Celle-ci vient du centre diocésain d'Églicine à Alger et elle est extraordinaire parce qu'elle tend à vouloir montrer une sorte de mouvement panislamiste. C'est ce que disait Rhin. Il voulait alerter le monde européen d'un mouvement panislamiste en Algérie en essayant d'inscrire toutes les confréries religieuses et leurs mouvement à l'intérieur du territoire. Alors c'est une folie scientifique, hein, c'est une carte rhizomatique. En faisant ça, on reprend l'idée de la carte des tribus, bien évidemment de Carré-Tavernier et autres, mais surtout, on essaye d'inscrire une sorte de mouvement
sourd, voilà, de
c'est
menace.
Ça, c'est ça, exactement.
C'est une carte, il faut le dire, qui est très belle, grande, très colorée.
Chacune de ces couleurs, en fait, là, il y en a neuf, renvoie à un ordre religieux, mais ces ordres religieux remontent soit pour les plus anciens, donc à l'arrivée des premiers musulmans en Afrique du Nord, et soit les plus récents, donc début 20e siècle.
Donc on voit un grand entremêlement de traits qui montre aussi une des difficultés qu'on n'a pas évoquée pour toutes ces cartes de l'Algérie, qui est de cartographier le nomadisme. On ne sait pas où les fixer sur la carte.
Oui, là vous pointez une chose juste, c'est-à-dire que là, Rhin, il pointe de la temporalité. On sait que telle confrérie à tel endroit démarre à telle date, alors on va dire, hop, 13e siècle, et puis on voit, par sa couleur, comment cette confrérie finit par se retrouver du côté de Tlemcen, et ensuite du côté... Vous voyez, elle bouge sur une durée très longue. C'est vrai que c'est un mouvement de population.
Cette carte de la colonisation officielle de 1902, à l'échelle 1/800 000e, est très intéressante parce que là, on assiste à une francisation déjà très avancée des toponymes notamment. L'objectif premier, c'est de valoriser la colonisation de peuplement, de la montrer comme une tâche qui se diffuse, qui prend de plus en plus d'espace. Une œuvre réussie en quelque sorte et appelée à s'étendre encore davantage. C'est une carte qu'il faut regarder évidemment avec un regard critique, puisque ces taches de couleur rose pour montrer les terres appropriées par des Européens ou par des Français, ce sentiment d'uniformité ne correspond pas forcément à la réalité. L'ampleur de la dépossession est bien celle-là, et même au-delà de celle-là. Mais en revanche, le peuplement européen n'a pas forcément suivi. L'ouest, par exemple, de l'Algérie étant plus peuplé par des Européens que l'est, alors qu'on a l'impression que les taches roses recouvrent une surface plus importante dans l'est. Ce qui est très intéressant aussi sur cette carte, c'est le sentiment de hiérarchie très très prononcé dans cet espace retourné, dirait Marc Cotte, avec des voies de communication en dents de peigne, qui privilégient certains lieux d'implantation européenne au détriment des espaces peuplés uniquement par des Algériens. Et donc un espace à plusieurs vitesses, en quelque sorte, avec des façades de richesse qui cachent ou qui camouflent des espaces complètement délaissés par les Américains.
Alors, on est devant une carte, c'est une carte qui s'appelle Carte administrative des territoires du Sud, qui date de 1927. Pourquoi est-ce que, pour vous, elle est importante et pourquoi est-ce qu'elle marque la fin
d'un certain processus ? On voit bien par cette carte deux choses. D'abord, on voit au nord ce massif qui est vert et qui est l'administration civile du territoire du Nord. Et on voit ensuite toute cette partie jaune et qui est en fait l'Algérie délimitée au sud, en dessous de Tamanrasset, avec un petit pointillé concernant la frontière marocaine et pointillé concernant la frontière tunisienne. C'est-à-dire que les protectorats, à cette époque-là, sont encore présents. Et donc, ce ne sont pas des frontières on va dire, fixée. Vous voyez, il y a une souplesse de la frontière, mais dans le même temps, la manière dont ici est représenté le territoire algérien est définitive. C'est-à-dire qu'on peut tracer, comme on l'a tracé vers le sud, de toute façon, là, on est dans des zones d'influence et de conquête territoriale française. Il y a une très forte profondeur du territoire algérien, mais vous voyez bien que toute cette partie du sud, comme encore aujourd'hui, hein, relève d'une sorte d'administration quasi strictement militaire.
Cette carte vous intéresse, vous aussi, Didier Guignard ?
Cette carte administrative des territoires du Sud de 1927, au 1/3 500 000e, pour être précis, est intéressante parce qu'elle affirme l'algérianité du Sahara d'une manière très, très prononcée par les couleurs, par les traits rouges, les liserés qui représentent les frontières. C'est intéressant parce que c'est plus un vœu pieux, une déclaration d'intention, plus qu'une réalité encore à cette époque-là. On est quand même en 1927. On souligne bien d'une manière très précise le fait qu'on en a désormais un peu plus les moyens qu'au XIXe siècle. On souligne notamment les liaisons télégraphiques, les liaisons téléphoniques, les routes désormais accessibles à l'automobile, les pistes d'atterrissage des débuts de l'aviation. Mais encore une fois, tous ces moyens de pénétration sont linéaires et laissent de côté d'immenses espaces qui restent complètement inconnus.
Vous dites, Didier Guignard, qu'on voit l'algérianité du Sahara au sud de cette Algérie qui présente là les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui à peu près. C'est le Soudan français, l'Afrique occidentale française. Quel était l'enjeu de tracer cette frontière au milieu du Sahara et pourquoi dire l'algérianité du Sahara et pas la soudanité ou l'AOFIT?
En fait, c'est assez paradoxal parce qu'on est ici en présence de frontières à l'intérieur d'un même empire, mais il y avait justement des ambitions opposées, des luttes, des débats entre administrateurs de colonies différentes ou de cercles différents quand on est à l'intérieur d'une même colonie. Et cette jonction entre l'Algérie et l'Afrique occidentale française était d'abord une volonté, un enjeu pour les autorités coloniales en Algérie. Ça a d'abord été une façon de se projeter dans le Sahara en partant de l'Algérie et non pas en partant de l'AOF, pour remplir un petit peu le vide d'une certaine manière et avec la croyance, dès les années 1840, la croyance que l'on peut tirer un très grand bénéfice, notamment des routes caravanières et du contrôle du commerce transsaharien.
Alors là, c'est la fin de cette partie Capter l'Algérie. On est dans l'imagerie destinée au grand public de la métropole et peut-être aussi des colonies. La carte a une place importante. On voit là des cartes touristiques faites par des marques d'essence. Il y a des cartes postales. Et là, cette grande carte de Castelnau des années 20. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette carte de l'Algérie de 1922 destinée aux enfants, en fait, aux élèves?
C'est d'abord un territoire qui est présenté dans les écoles françaises comme la continuité de la métropole. On y est chez soi. Et si vous regardez ici ce protège-cahier, c'est un petit protège-cahier qui date de 1938. Et ce protège-cahier appartenait à un enfant de la Vienne. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Algérie, Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. Et il est écrit que c'est un pays qui appartient, donc c'est et la partie du domaine français situé dans l'Afrique du Nord.
Là, les petits écoliers français peuvent voir la différence, et c'est fait pour ça, entre ce qui deviendra l'Hexagone et qui s'imposera comme la figure de la France et l'empire colonial d'Afrique, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Afrique du Nord, qui représente une superficie 12 fois supérieure.
Oui, il y a la superficie 12 fois supérieure. Alors si on rentre dans le détail de la carte de Castelnau, il faut mettre à côté aussi ce qui est montré.
Vous avez une deuxième carte
et c'est écrit « L'habitation rurale des indigènes de l'Algérie ». Et là, vous avez tout ce qui est en violet, tente.
Presque tout le territoire.
Ensuite, vous avez Gourbi.
Presque tout le nord.
Ensuite, vous avez maison à terrasse, un peu jaune. Ensuite, vous avez maison à toit en tuiles courbes. Il y en a quasiment peu, sauf dans la région de Délice, et puis vous avez maison à l'européenne, quasiment trois petites taches rouges. Mais ce que vous voyez, tente et gourbi, c'est l'habitat des indigènes. Et ça aussi, l'enfant de la Vienne, il l'apprenait sous cette forme-là.
Et la troisième petite carte qui est sous cette carte de Castelnau, c'est la carte des pluies.
C'est ça. Oui, alors ça, c'est très intéressant. C'est la légende concernant les pluies et les moyennes annuelles. Mais là aussi, ça a à voir avec la terre et la fertilité. Hein. C'est toujours porté de cette manière-là. Et d'ailleurs, vous avez là terrain propre à la culture, maquis ou forêt, steppe herbeuse, désert et oasis. On voit très très bien aussi, à la lecture de cette carte, que sont mélangés un certain nombre de noms, Mascara, Mostaganem et autres, et puis des noms de villes très importants comme Orléansville, Béjaïa qui est transformé en Bougie, Gigelli, Philippeville, voilà, Bizerte.
Les orangeraies médiocres d'autrefois ont fait place à de magnifiques vergers régulièrement plantés et particulièrement soignés. Et l'heure de la cueillette de ces fruits d'or, qui ressemblent à ceux dont parle la légende des Hespérides, est un spectacle bien fait pour évoquer les terres bénies, où l'abondance et la beauté se confondent dans le décor de lumineux jardins.
Le continuum de cette exposition, on va parler d'un continuum formel, c'est la carte. Mais la carte ne signifie pas une carte fixée dans sa forme et dans ce qu'elle illustre. On voit bien qu'elle évolue au fur et à mesure du temps. La carte qui est présentée à toute fin de l'exposition diffère un peu des cartes qui vont être présentées par El Alzoubir, cet artiste algérien qui fait des détournements avec la toponymie. Mais la carte qui est présentée est une immense carte touristique de l'Algérie. Et alors là, les stéréotypes sont très très nombreux et on est dans une Algérie qui, cela paraît de plus en plus évident, va gagner son indépendance. Cela jouxte un film qui est aussi lui essentiel parce que c'est le film d'un ingénieur agronome amateur. Cela appartient à un lieu qui s'appelle Ciné-Mémoire à Marseille. Il a été monté par eux, par les gens de Ciné-Mémoire, et qui montre en fait tout simplement ce qu'on pourrait appeler un domaine agricole qui de plus en plus est cerné par les militaires, c'est-à-dire un mode de vie qui peut plus perdurer avec les employés agricoles qui sont regroupés autour de la ferme et qui sont là à faire les travaux du quotidien. Et on voit bien que c'est aussi la fin d'un monde qui nécessairement se doit de disparaître aussi par rapport aux conditions de vie des habitants. Et c'est pour cela qu'apparaît derrière vous cette série de photos faites aussi par un très grand photographe algérien, Mohamed Kouassi. Tout le monde connaît ces photos de Frantz Fanon, Le Che, Patrice Lumumba, mais peu de gens savent que ce sont les photos d'un très très grand photographe, Mohamed Kouassi. Et là, c'est une petite série, un peu comme une séquence, hein, qui montre à la fois les figures importantes, les enfants réfugiés en Tunisie, le vote du référendum, et puis la fête du 5 juillet. Je rappelle que cette date était importante pour les Algériens, puisque c'est le 5 juillet qu'a été prise la ville d'Alger, 5 juillet 1830.
Merci à Zahia Rahmani, co-commissaire de l'exposition donc Made in Algeria avec Jean-Yves Sarrazin, à Didier Guignard, chercheur à l'IREMA mais auteur de L'abus de pouvoir dans l'Algérie coloniale, d'avoir accompagné Victor Massé de l'Épinay pour cette promenade. Rappelons que cette émission, cette exposition durera jusqu'au 2 mai au MUCEM à Marseille. Et merci également à François Rivalan qui a assuré la prise de son. Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour à vous Hélène Blé, merci d'être avec nous.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes professeur à l'École normale supérieure. Vous avez publié il y a 2 ans Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale dans la collection L'épreuve de l'histoire chez Fayard. Et vous avez participé à ce catalogue, donc très beau catalogue, il faut le dire, de Made in Algeria, généalogie d'un territoire, qui est publié par le MUCEM et par les éditions Azan. Alors, après avoir entendu cette description de ces cartes, Une question nous est venue avec Victor Massé de l'Épinay, c'est tout compte fait ce que vous traitez, ce dont vous traitez dans Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale, c'est tout compte fait de rentrer dans la pratique de la carte, la pratique de la cartographie par ceux qui l'ont faite. Qui sont ceux, justement, qui ont dressé ces cartes dont on a eu un petit aperçu, qui sont présentes dans cette exposition Made in Algeria au MUCEM, qui sont ceux qui les ont donc dressé ces cartes, en l'occurrence Hélène Blais?
Alors effectivement, c'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs manières de regarder les cartes, à la fois comme illustration et puis comme résultat d'une pratique. Là, en l'occurrence, on l'a entendu dans le documentaire, ce sont essentiellement des militaires qui ont dressé les cartes de l'Algérie jusque dans les années 30. Celles qui ont été reprises et présentées au grand public ou les cartes scolaires qui sont très importantes aussi, sont des reprises de ces cartes militaires faites par des soldats qui débarquaient en Algérie dans des brigades topographiques qui ne connaissaient absolument pas le territoire et qui l'ont découvert en travaillant.
Victor Massé de l'Épinay.
Ces premiers topographes, cartographes militaires, ils avaient quand même quelques sources. Vous les présentez un peu dans les deux premiers chapitres de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles étaient ces sources? Est-ce qu'elles étaient nombreuses pour l'Algérie, peut-être plus ou moins nombreuses que pour d'autres régions d'Afrique qu'on découvrait au même moment, d'Afrique du Nord?
Alors, il y avait des sources, mais ils les ont relativement peu utilisées. On a évoqué tout à l'heure ces cartes de Boutin, ces cartes du littoral. La cartographie européenne de ces zones était essentiellement une cartographie maritime. On voyait les côtes depuis des bateaux. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils ont des références livresques, mais qui ne sont pas des cartes topographiques. Donc, on va avoir des références, notamment à la géographie de Ptolémée, à d'autres auteurs, des allusions à des géographes médiévaux qui ont raconté des itinéraires dans ces territoires du nord de l'Afrique. Mais du point de vue topographique, les militaires français découvrent un territoire à une échelle qui est nouvelle pour eux.
Alors, ils découvrent un territoire qui, sans faire d'amalgame avec d'autres régions d'Afrique plus tardives, est un territoire un peu en peau de léopard. C'est-à-dire que, en fait, ils ont, ou en oasis, pourrait-on dire, ils ont quelques connaissances qui progressent au fur et à mesure où ils avancent avec les armées donc françaises dans ce territoire de l'Algérie qui est en train d'être conquise, et puis beaucoup d'endroits qu'ils ne connaissent pas. Comment d'abord font-ils pour pouvoir avancer avec ces armées? Pratiquement, ils sont en avant-garde, en avant-poste, ils sont à l'arrière des militaires qui conquièrent.
Alors, non, ils ne sont jamais en avant-poste, c'est beaucoup trop dangereux pour eux, c'est la guerre en Algérie, il y a des mouvements de résistance très organisés. Donc, dans les premières décennies de la conquête, ils accompagnent les colonnes armées et sont plutôt derrière ou en retrait. Ils ont du mal à s'éloigner même des trajets des colonnes, d'où une cartographie d'itinéraire qui donne cette impression, qui n'est pas seulement une impression liée au dessin de la carte, qui correspond à la réalité d'une domination qui n'est pas du tout
homogène.
Oui.
Donc, topographie d'itinéraire, ça veut dire qu'on a des sortes de flèches comme ça dans le territoire dans le territoire algérien qui progresse au fur et à mesure où l'armée progresse, et puis entre les deux, eh bien, entre ces flèches, il n'y a pas grand-chose à connaître. En tous les cas, on ne les connaît pas, ces territoires-là.
Oui, on ne les connaît pas. Il y a sans doute beaucoup de choses à connaître.
Oui, on va les connaître plus tard.
Mais effectivement, les conditions de la guerre imposent en fait la pratique et donc la manière de cartographier. Alors, ça n'est pas propre à l'Algérie. C'est quelque chose que l'on connaît dans d'autres territoires dès lors que des topographes militaires accompagnent des armées.
Victor Massé de l'Épinay.
Alors en 1830, on est juste après la carte des Cassini qu'on évoquait hier. On est dans ce qu'on a appelé ensuite la carte d'état-major, dressée par les militaires pour tout le territoire métropolitain. Mais cette carte d'état-major, c'est à peu près les mêmes techniques que la carte de Cassini, c'est-à-dire de la triangulation, c'est-à-dire qu'il faut des points hauts, il faut faire des visées, il faut avoir des gens sur place qui nous aident, qui nous renseignent pour la toponymie. Didier Guignard l'a un peu évoqué dans ce qu'on a entendu au MUCEM, mais l'Algérie pose des problèmes complètement inédits aux cartographes qui avaient une certaine pratique, et puis une pratique qui était organisée, une pratique qui était bien méthodique. Comment est-ce qu'ils se sont adaptés à ce territoire nouveau à ce territoire en guerre et à ce territoire avec des gens qui n'étaient peut-être pas forcément bienveillants, d'une part, et qui, d'autre part, ne parlaient pas la langue, qui parlaient des langues étrangères.
Oui, alors là, vous abordez plusieurs questions très importantes. Effectivement, ces topographes qui arrivent en Algérie pensent au départ, et c'est les ordres qu'on leur a donnés, qu'ils vont pouvoir travailler comme ils l'ont fait, ce sont souvent les mêmes, hein, sur des feuilles de la carte d'état-major qui reprend la carte de Cassini avec quand même de nouvelles méthodes. Et puis, une fois sur le terrain, ils se rendent compte que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible d'abord, effectivement, parce que ils ne peuvent pas aller partout et que toute une partie de cette cartographie va se faire, comme on dit à l'époque, par renseignement. Ça veut dire quoi, par renseignement ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas partout, ils ne peuvent pas y aller. Ils interrogent des habitants, des gens du lieu, comme ils disent souvent dans leurs rapports, et essayent de situer de manière assez imprécise, hein, mais ils s'en expliquent et les cartes sont indiquées comme telles, un certain nombre de lieux d'habitation, de reliefs, etc.
Et la question de la confiance à ces gens du lieu se pose évidemment, puisqu'on se dit, est-ce que certains essayent de nous tromper ou de nous donner des renseignements qui peuvent être faux, puisque cette cartographie est une cartographie orientée vers la conquête.
Oui, alors cette question de la crédibilité du renseignement, elle est permanente, hein, tous les topographes se la posent. Elle n'est pas propre au territoire de conquête. Hein, lors des opérations de la carte de Cassini, c'était évoqué dans votre émission d'hier, hein, les habitants étaient souvent très hostiles aux cartographes, parce que cartographe, topographe, ça renvoie à une possibilité d'imposition, et donc on va dire que les topographes de terrain sont habitués à travailler dans un climat hostile. En Algérie, il est quand même redoublé, il est parfois violent, et effectivement, ils n'ont pas forcément les moyens de contrôler toutes les informations qu'ils recueillent. Donc il va y avoir beaucoup de discours pour essayer de rendre compte d'une pratique qui serait scientifique et beaucoup d'enrobage, hein, de ces enquêtes qui sont parfois en fait des interrogatoires, hein, aussi, puisque les habitants ne se précipitent pas au bureau de la topographie pour donner des informations sur leurs environs.
Alors ça c'est extrêmement intéressant, puisque néanmoins les militaires qui font ce travail, et vous parlez par exemple du capitaine Bissuel qui a ses amis Touareg, vous dites amis, enfin il le dit d'ailleurs, il les cite comme étant des amis, enfin c'est des prisonniers en l'occurrence qui l'accompagnent, donc deviennent ses amis, c'est ce qu'il croit en tous les cas, pour lui donner des renseignements. Alors effectivement on peut se poser la question de, vous citiez la France du 18e siècle au moment de la carte de Cassini, de la fiabilité des informations, mais aussi de l'intérêt que ceux qui sont informateurs ont à donner des informations. Est-ce que vous avez pu avancer, travailler sur cette question-là ? Il y en a sûrement qui donnent des informations fiables, pourquoi les donnent-ils ? Et ceux qui ne les donnent pas, pourquoi ne les donnent-ils pas d'une certaine façon, Hélène Blé ?
Alors, juste pour rebondir sur cet exemple de Bissuel, c'est effectivement très intéressant parce qu'il va dresser une carte de la Dranet dans le sud saharien à Alger, hein, avec ses fameux prisonniers, avec lesquels il raconte avoir établi une relation de confiance, ce qui est
voire d'amitié,
ce qui est sans doute vrai. Et concrètement, il va faire apporter dans la prison des sacs de sable pour leur faire dresser un plan relief de leur territoire. Et à partir de ce relief en sable, dresser, lui, cette carte qu'il publie, hein, sur cette zone en question. Alors, sur la question que vous posiez, c'est très difficile de savoir. Les interlocuteurs sont aussi dans des rapports de force et peuvent en jouer, hein. Sur les Touaregs, c'est évident que si on a un groupe de prisonniers qui sait que la France hésite sur sa politique par rapport à un certain nombre de groupes sociaux dans ces zones du sud du Sahara, il peut être intéressant de collaborer. Ensuite, il n'y a pas seulement la résistance à donner des bonnes informations, il peut y avoir tout simplement le fait que les questions qui sont posées ne sont pas comprises, et tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas aux manières d'appréhender l'espace et de connaître le territoire parce qu'on est dans des régimes de connaissances complètement divers.
Citez-nous un ou deux exemples justement de ces malentendus, pourrait-on dire, qui mettent aux prises informateurs et informés, français, colonisateurs et futurs ou en cours de colonisation.
Alors, c'est peut-être pas des malentendus, mais ces différences de registre de savoir et de perception de l'espace, on peut les voir, par exemple, dans la manière de qu'ont les militaires français de tenter de cartographier l'hydrographie des zones désertiques, puisque eux ont appris à tracer des rivières, des ruisseaux, des cours d'eau en fonction du débit. L'intermittence, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et tout le vocabulaire touareg, en particulier, qui distingue les points d'eau en fonction de leur importance, de leur régime annuel, etc. Ça va être quelque chose qui échappe en grande partie aux topographes parce que ils ne peuvent pas poser de questions sur un phénomène qu'ils n'imaginent même pas dans cette dimension.
Victor Massé-Lépiné.
Alors, le processus de colonisation a duré longtemps. Au cours du 19e et puis surtout du début du 20e siècle, il y a eu des progrès techniques très importants, et en particulier avec l'aviation. La question de la photographie aérienne, qui a vraiment révolutionné la pratique cartographique. Comment est-ce que cette photographie aérienne a changé la cartographie coloniale, et qu'est-ce que ça a apporté de nouveau? Est-ce que ça a donné un nouveau rapport au territoire et peut-être un nouvel imaginaire colonial?
Alors, ça, c'est une question très intéressante, surtout pour ces zones sahariennes, hein, oui, qui restent difficiles d'accès jusque dans les années 30 et même au-delà. Je ne peux vous répondre que sous réserve d'inventaire, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur cette cartographie aérienne. Et puis, c'est d'ailleurs quelque chose qui devrait être fait. Ce qui est sûr, c'est que ça change fondamentalement, parce que ce qui était une topographie de terrain, nécessitant d'une manière ou d'une autre des rencontres, des contacts, qui, même s'ils n'apparaissent pas sur la carte, sont bien sûr en amont, disparaissent. Pas complètement, hein, parce que les avions à l'époque doivent atterrir souvent. Il y a des pistes, on les évoquait sur une des cartes des années 30. Donc il y a quand même un rapport au terrain, mais ça change beaucoup, hein, puisqu'il n'y a plus cette contrainte, hein, qui est d'établir une relation, quelle qu'elle soit, avec les habitants du lieu que l'on cartographie.
Alors il y a quelque chose de fort intéressant quand on vous lit, c'est que vous parlez toujours dans Mirage de la carte de cette notion de bricolage, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit très bien les tâtonnements, alors tâtonnements vis-à-vis de ce terrain que l'on ne connaît pas, mais tâtonnements aussi vis-à-vis de la description de ce terrain, puisque ce que l'on trouve sur ce terrain, vous l'avez dit à propos des Oued ou à propos de ces rivières qui sont temporaires dans le désert, eh bien, ça n'est pas ce qu'on trouve sur les terrains que l'on connaît habituellement. Donc, il va falloir décrire de façon nouvelle des nouveaux phénomènes qui sont des phénomènes que forcément on ne connaît pas quand on est topographe de la France métropolitaine, Hélène Blais.
Oui, tout à fait. Alors, il y avait tout à l'heure, Didier Guignard évoquait la présence de ces marabouts sur les cartes, hein, qui deviennent des repères essentiels du paysage.
Les tombes de marabouts, c'est cela ?
Les marabouts qui peuvent être des lieux de prière, qui sont en général blancs, ou repeints en blanc par les topographes pour les voir mieux lorsqu'ils font des mesures géodésiques. Et ces lieux saints deviennent de nouveaux référents, hein, sur les cartes topographiques, ce qui n'était pas du tout prévu dans la nomenclature de la carte d'état-major. Ils vont sans cesse effectivement essayer de trouver des repères qui permettent de catégoriser le paysage. Donc on a ces marabouts, on a les ruines romaines que les topographes français recherchent avec avidité, parce que c'est des bâtiments en dur, hein, des restes de bâtiments en dur, parce que en fait il y a aussi une dimension très idéologique, hein, qui est très fort dans l'armée française au 19e siècle en Algérie, et qui consiste à retrouver constamment des traces de l'Empire romain dans ces territoires d'Afrique du Nord. Et puis il va y avoir aussi la nécessité d'inventer de nouveaux signes, hein, une sémiologie spécifique au territoire, et notamment à tout ce qui concerne la hiérarchie urbaine. Alors, on l'entendait hier dans la carte de Cassini, il y avait une première nomenclature sur les villages, les bourgs, les villes, etc. En Algérie, les cartographes doivent trouver autre chose, notamment pour tout ce qui concerne les territoires où ils essayent de cartographier le phénomène du nomadisme.
Victor Massé-Lépiné.
Je voudrais revenir un peu sur ces cartographes dans leur intimité, dans leur pratique un peu personnelle du territoire. Ils sont militaires, ils avancent toujours avec une colonne armée qui les protège. Pour autant, on les positionnerait plus du côté de l'explorateur, du géographe de terrain. Est-ce que on sait si, dans leur pratique cartographique, et puis aussi dans le contexte de lutte permanente entre les militaires et l'autorité civile qui existe en Algérie à ce moment-là, est-ce qu'ils arrivent à passer dans leur carte quelque chose de leur pratique? Est-ce qu'il y a des luttes avec l'armée qui leur demande leur travail? Est-ce qu'ils ont un rapport au territoire qui n'est pas que orienté vers la conquête, mais aussi vers la connaissance scientifique qui peut transparaître?
Oui, la conquête et la connaissance scientifique vont souvent de pair. Donc, oui. Cette distinction que nous, on a tendance à faire n'est pas forcément opératoire, hein, ou pour eux ne pose pas de problème. C'est difficile de vous répondre parce que chaque cartographe fonctionne avec ses propres référents et ils ne forment pas vraiment un corps homogène. Hein, mais certains écrivent ou ont des témoignages intéressants, notamment pour tout ce qui concerne leur rencontre avec des Algériens. Donc, on est très souvent dans une rhétorique classique, hein, liée à l'époque, colonialiste et assez méprisante pour les populations locales. Mais vous avez, de temps en temps, un topographe qui reconnaît avoir appris beaucoup, qui reconnaît que, sans les habitants, il serait impossible de connaître le territoire. Je pense à des gens comme Carette, dont on a évoqué cette fameuse carte des tribus. Hein. Il envisage même de créer une école d'auxiliaires algériens, dits indigènes, pour aider les topographes dans leur pratique quotidienne, parce qu'il dit c'est ça qui nous manque et ce sont des trésors qu'il faut pouvoir utiliser.
Et la cartographie est-elle utilisée, par exemple, dans le cadre de l'école coloniale? Y a-t-il des cours de cartographie? Ou en tout cas, est-ce qu'elle sert justement aux futurs administrateurs qui vont devoir se rendre dans ces territoires pour pouvoir les comprendre avant même de s'y rendre? Hélène Blais, est-ce qu'il y a des rapports entre ce qui est dressé sur le terrain comme carte et puis la préparation, pourrait-on dire, à l'administration de ces territoires, Hélène Blais?
Oui, alors la spécificité de l'Algérie, c'est que les administrateurs qui arrivent sont des personnes qui dépendent du ministère de la guerre, hein, puisque l'Algérie a toujours été liée à un régime particulier et ce ne sont pas exactement les profils que l'on va retrouver, notamment en Afrique de l'Ouest, etc. De manière générale, oui, les cartes, la lecture des cartes, pas leur fabrique, hein, mais compte beaucoup, effectivement, pour les administrateurs. On trouve des choses sur l'Algérie assez étonnantes, hein, c'est-à-dire que des administrateurs arrivent dans leur cercle pour prendre leur commandement et écrivent en disant « mais je ne comprends pas, je ne trouve pas de carte de mon cercle, donc je ne sais même pas quelle est l'étendue de ma circonscription, comment faire, il faut que... » Donc voilà, donc il y a ce rapport aux cartes, hein, dans une pratique très classique de pouvoir territorial et omniprésent.
Avec une évolution tout de même tout au long du 19e et surtout dans la première moitié du 20e siècle, évidemment tout ce qui concerne les révoltes régulières du 19e siècle va petit à petit s'éteindre en partie jusque dans les années 30, même s'il y a toujours là encore des révoltes qui sont les prémices peut-être même d'une guerre qui viendra. Mais tout de même, il va y avoir peut-être plus de territoires un peu plus sécurisés. Au bout du compte, est-ce qu'il y a une évolution justement de ce rapport à la carte sur la fin de la colonisation, c'est-à-dire dans les années de l'entre-deux-guerres par exemple?
Alors oui, pour tous les territoires du tel algérien, hein, qui commencent à être quand même très bien connus et pour lesquels la cartographie n'est plus vraiment un enjeu. En revanche, pour les zones sahariennes et jusque dans l'entre-deux-guerres, comme la colonisation de l'Algérie fonctionne sur le mode d'un front pionnier et avance, il y a toujours de grandes incertitudes et donc des enquêtes, des recherches et aucune assurance en la matière, hein, du côté des pouvoirs coloniaux.
Victor Massé de l'Épinay.
Donc on voit dans cette exposition et dans vos travaux comment la cartographie finalement a donné une unité à un territoire, a donné peut-être... Mais vous le contestez justement, c'est ça que je voulais dire. Quand on voit cette exposition, on a l'impression que l'Algérie ne doit son unité, son nom, ses limites, ses frontières qu'à la colonisation et... C'est pas si clair pour vous, vous élevez même contre cette idée.
Hélène Blais.
Alors, effectivement, là, on rentre dans des questions qui touchent à la fois des enjeux identitaires et territoriaux. Alors, oui, les frontières de l'Algérie aujourd'hui sont des frontières qui ont été en grande partie, pour les zones méridionales en tout cas, tracées au moment de la colonisation et par la colonisation. Sur quoi je pense qu'on peut discuter, c'est sur l'idée qu'elles sont artificielles, parce que en fait, toutes les frontières sont artificielles, et que donc, y voir une origine juste coloniale, hein, c'est aussi enlever finalement une autre forme de d'existence de l'Algérie qui ne dépend pas que des frontières et du territoire tracé sur les cartes.
C'est tout le travail de Camille Lefebvre, par exemple, sur cette question.
Exactement, sur le Niger question. Et d'autres historiens des frontières en Afrique. Cela dit, et c'est ce que je dis aussi, hein, l'inclusion d'une grande partie du désert du Sahara, cette algérianité du Sahara, c'est une création coloniale, hein, et elle peut permettre, y revenir peut permettre aussi de comprendre les tensions qui se jouent dans ces zones encore actuellement.
En particulier autour des populations Touareg et avec les décisions ou les débats qu'il peut y avoir entre le Mali, le Niger, l'Algérie, justement sur la possibilité ou non qu'il y ait une autonomie pour ces populations à l'intérieur de ces pays, par exemple.
Oui, tout à fait, hein, avec des enjeux forts qui sont aussi les enjeux liés au pétrole et donc aux richesses du sous-sol dans ces zones qui, à l'époque coloniale, n'étaient pas encore connues, mais sur lesquels on commençait à partir des années 20 à avoir des intuitions. Et donc il y a cet exemple, hein, que je cite dans mon livre qui me semble assez intéressant sur cette conception du territoire colonial. C'est l'idée qu'ont eu les Français en pleine guerre d'indépendance.
1956.
Voilà, d'essayer de conserver, quoi qu'il arrive, un petit morceau d'Algérie. Et ce petit morceau, c'était un morceau dans le Sahara où on savait qu'il pouvait y avoir du pétrole.
Merci Hélène Blais. Si on veut en savoir plus sur cette aventure passionnante de la cartographie de l'Algérie et de la façon dont elle est liée à la colonisation, eh bien on doit lire votre livre « Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale » publié dans la collection « L'épreuve de l'histoire » chez Fayard. Et on peut évidemment, si on ne peut pas se rendre à Marseille jusqu'au 2 mai, date de fin de l'exposition « Made in Algérie » au MUCEM, donc « Généalogie d'un territoire », on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies le catalogue publié par le MUCEM et par les éditions Azan, Made in Algérie, généalogie d'un territoire. Vous y participez, mais également bien d'autres historiens spécialistes de la cartographie. Ils sont sous la direction de Zaya Dramani et de Jean-Yves Sarrazin. Merci à vous, Victor Massé-Lépiné. On se retrouve demain pour parler de cartographie médiévale. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion, laissez vos commentaires sur nos pages. Oui, vous pouvez le faire, regardez très bien sur le bas de la page. Et puis également, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Il y a un compte Twitter désormais, Fabrique FC.